L'exaspération monte à 3 mois et demi de la présidentielle et un nouveau slogan est apparu sur les réseaux sociaux. Pas de nourriture, pas d'élection, nous ne mangeons ni les urnes, ni les bulletins de vote. Florence Maurice, Nairobi, RFI.
RFI, Nairobi.
Radio G. www.radio-g.fr.
Bienvenue dans Tout compte fait, l'émission qui fait la part belle au compte sur Radio G. 30 minutes d'histoire et de chansons pour bien commencer la journée. Aujourd'hui, je vous propose de réviser nos classiques autour de la figure d'un animal. Alors, souvent loué pour son agilité et son intelligence à la chasse, sa nature indépendante et sa coquetterie, eh bien, vous l'aurez sans doute deviné, mais il s'agit bien du chat. Tout d'abord, je commencerai avec l'histoire du chat et du vieux rat, qui est une fable de Jean de La Fontaine, publiée pour la première fois en 1668. Alors figurez-vous que le talent de Monsieur de La Fontaine ne s'arrête pas à l'écriture des fables. Eh bien non, celui-ci a également écrit des contes, alors d'un genre que l'on qualifierait de licencieux, donc réservé aux adultes. Ensuite, je vous proposerai un contemporain de La Fontaine, à savoir Charles Perrault, qui nous livre en 1695 un de ses grands succès avec Le Maître Chat, ou Le Chat Botté, revisitation du conte italien La Chatte de Constantin le Fortuné de Giovanni Francesco Scaparola, écrit en 1553. Et pour finir, je vous proposerai un petit conte africain dans lequel un chat sauvage de la savane se cherche un ami pour la vie. Alors côté musique, je ne peux résister à la tentation de vous offrir le duo miaulé, extrait de L'Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel, fantaisie lyrique du début du siècle dernier. Je ne peux également faire l'impasse sur le morceau intitulé « Le chat » de Powo Quatuor a Cappella, ayant connu un grand succès dans les années 90. Je vous propose également à l'écoute aujourd'hui un extrait de l'album « Sourical », qui est un album conceptuel rendant un hommage posthume au chat de l'artiste Sophie Calle, qui répondait au nom quelque peu cocasse de « Souris ». Eh bien, voilà pour le menu. J'espère que ce florilège d'histoire et de musique vous fera ronronner de plaisir.
Tout compte fait.
Le chat et le vieux rat. J'ai lu, chez un conteur de fables, qu'un second rodillard, l'Alexandre des chats, l'Attila, le fléau des rats, rendait ces derniers misérables. J'ai lu, dis-je, en certain auteur, que ce chat exterminateur, vrai Cerbère, était craint une lieue à la ronde. Il voulait de souris dépeupler tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui, la mort au rat, les souricières n'étaient que jeu au prix de lui. Comme il voit que dans leur tanière les souris étaient prisonnières, qu'elle nous est sortir, qu'il avait beau chercher, le galant fait le mort et du haut d'un plancher se pend la tête en bas. La bête scélérate à de certains cordons se tenait par la patte. Le peuple des souris croit que c'est châtiment qu'il a fait un larcin de rôt ou de fromage et gratigné quelqu'un, causé quelques dommages, enfin qu'on a pendu le mauvais garnement. Toutes, dis-je, unanimement, se promettent de rire à son enterrement, mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête, puis rentrent dans leur nid à rats, puis ressortant, font 4 pas, puis enfin se mettent en quête. Mais voici bien une autre fête. Le pendu ressuscite et sur ses pieds tombants, attrape les plus paresseuses. « Ah, nous en savons plus d'un !» dit-il en les gobant. « Oh, ces tours de vieille guerre et vos cavernes creuses ne vous sauveront pas, je vous en avertis. Vous viendrez toutes au logis. » Il prophétisait vrai. Notre maître Mitis, pour la seconde fois, les trompe et les affine, blanchit sa robe et s'enfarine, et de la sorte déguisée se niche et se blottit dans une huche ouverte. Ah, ce fut à lui bien avisé. La jante trotte-menu s'en vient chercher sa perte. Un rat, sans plus, s'abstient d'aller flairer autour. C'était un vieux routier. Il savait plus d'un tour. Même il avait perdu sa queue à la bataille. « Ce bloc en farine et ne me dit rien qui vaille !» s'écria-t-il de loin au général des chats. « Je soupçonne dessous encore quelques machines. Rien ne te sert d'être farine, car quand tu serais sac, je n'approcherais pas. » C'était bien dit à lui. J'approuve sa prudence. Il était expérimenté. Et savait que la méfiance est mère de la sûreté.
Moi, vouloir être un chat, ma volonté contre tes bas, je me ferai angora pour me blottir dans tes mains. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus l'avocat. Moi, vouloir être un chat, tous les soirs quand je te vois. Moi, vouloir être un chat, retrouver sur les gouttières mes copules de litière, veux toujours rester à toi. Prendre des mitchafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être un chat et ne risquer de tes doigts que le verre se sur moi. Tu préfères à mes félines caresses les canines d'un chien en laisse. Tu ne comptes pas sur moi pour dormir sur le sofa. Je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, j'en suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi.
Le maître chat ou le chat botté. Vous noterez au passage la référence que fait Charles Perrault à la fable de Jean de La Fontaine au début de l'histoire du chat botté. Un meunier ne laissa pour tout bien à trois enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits et ni le notaire ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, faudra que je meure de faim. Le chat, qui entendit ce discours mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux « Oh, ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Quoique le maître du chat ne fît pas grand fond là-dessus, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement et mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses deux pattes de devant et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et des lacerons dans son sac, et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins, peu instruits encore des ruses de ce monde, vinssent se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché qu'il eut contentement. Un jeune étourdi de lapin entra dans son sac, et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté, où, étant entré, il fit une grande révérence au roi et il lui dit « Voilà, sire, un lapin de garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. « Oh, dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans un blé, tenant toujours son sac ouvert, et lorsque deux perdrix y furent entrées, il tira les cordons et les prit toutes deux. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait du lapin de garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les deux perdrix et lui fit donner pour boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois de porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai et ensuite me laisser faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer et le chat se mit à crier de toute sa force. « Au secours ! Au secours ! Voilà le monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» À ce cri, le roi mit la tête à la portière et, reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat, s'approchant du carrosse, dit au roi que, dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits, quoiqu'il eût crié « Aux voleurs !» de toute sa force. Le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit 1000 caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré. Et le marquis de Carabas ne lui eut pas plutôt jeté 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants. Et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit « Bonnes gens qui fauchaient !» Si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi ne manqua pas à demander au faucheur à qui était ce pré qu'il fauchait. C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. Ah, vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. Oh, vous voyez, sire, répondit le marquis, c'est un prêt qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, » répondirent les moissonneurs. Et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi était étonné des grands biens du marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château, dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu. Car toutes les terres par où le roi était passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, et demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre, et le fit reposer. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion, en éléphant. » « Oh, cela est vrai !» répondit l'ogre brusquement. « Et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion !» Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit et avoua qu'il avait bien eu peur. On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple, de vous changer en un rat ou une souris. Oh, je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. Impossible ? Reprit l'ogre. Eh, vous allez voir. Et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant, le roi, qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut entrer dedans. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au devant et dit au roi « Votre Majesté soit la bienvenue dans ce château de Monsieur le Marquis de Carabas. » « Comment ? Monsieur le Marquis ?» s'écria le roi. « De château est encore à vous ?»« Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît. » Le marquis donna la main à la jeune princesse et suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis qui le devaient venir voir ce même jour-là, mais qui n'avait pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit après avoir bu 5 ou 6 coups, « Oh, il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre !» Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et dès le même jour, il épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Moralité. Quelque grand que soit l'avantage de jouir d'un riche héritage venant à nous de père en fils, aux jeunes gens, pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. Autre moralité. Si le fils d'un meunier avec tant de vitesse gagne le cœur d'une princesse et s'en fait regarder avec 2 yeux mourants, c'est que l'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, n'en sont pas des moyens toujours indifférents.
Tout compte fait. Tout compte fait.
Dans la savane africaine, le chat s'ennuie. Mais il se dit, oh, je ne veux pas rester seul. Il faut que je me trouve un ami. En passant près du marigot, il entend une grenouille chanter. Il se dit, tiens, les grenouilles savent beaucoup de choses. J'aurais certainement plaisir à parler avec l'une d'elles. Alors il s'approche de la grenouille et lui dit, ah, bonjour toi, je cherche un ami. Viens près de moi, on va parler tous les deux. La grenouille saute sur la berge près du chat et les voilà qui papotent tous les deux. Au bout d'un moment, une gazelle passe en courant. Elle ne voit pas la grenouille et sans faire exprès, elle l'écrase d'un coup de sabot. Crac ! Plus de grenouille. Le chat court après l'antilope en criant hey « Hé ! Arrête-toi ! Arrête-toi !» Alors l'antilope s'arrête et le chat lui dit bah, « Tu sais, moi aussi je cours vite, hein. Laisse-moi venir avec toi, je cherche un ami. » Alors ils repartent tous les deux en causant comme des amis. Ils ne virent pas qu'un léopard se glissait à travers les hautes herbes. Quand tout à coup, le léopard bondit sur l'antilope et l'égorge. Plus d'antilope. Alors le chat dit au léopard, « Nous sommes de la même famille, toi et moi. Allez, assieds-toi, on va devenir amis tous les deux. » Le léopard mange la gazelle, puis se couche près du chat. Et les voilà qui papotent comme de vieux copains. C'est alors qu'un éléphant sort de la forêt. Et comme tous les éléphants, c'est bien connu, il n'aime pas les léopards. Alors sans hésiter, il attaque. Et avant que le léopard ait pu s'enfuir, clac, il le transperce d'un coup de défense. Plus de léopard. Alors le chat dit à l'éléphant, oh, comme tu es grand et fort. Oh, j'aimerais bien être ton ami. Et approche ton oreille. Je vais te dire tout ce que je sais. Et voilà que le chat raconte à l'éléphant tout ce qu'il a appris en parlant avec la grenouille, avec l'antilope et avec le léopard. Et pendant ce temps-là, des hommes s'approchaient sans bruit, entre les hautes herbes. C'était des chasseurs. Et d'un seul coup, ils lancent leurs flèches contre l'éléphant. L'éléphant tombe, mort. Le chat se dit, oh, vraiment, j'ai pas de chance avec mes amis, hein. Ils tombent tous les uns après les autres. Même l'éléphant, qui était si fort. Bon, bah, ces chasseurs sont encore plus forts, alors je vais aller avec eux. Hein. Et le chat se glisse derrière les chasseurs jusqu'au village. Il accompagne le chef des chasseurs jusqu'à sa case où l'attend sa femme. Et dès que l'homme arrive, la femme lui crie. Alors, qu'est-ce que tu ramènes pour dîner ? J'ai tué un éléphant, répond le chasseur. Ah oui ? Et où est sa viande ? Oh ben, tu sais, je suis très fatigué, hein, dit le chasseur en s'asseyant. Et en plus, il fait très chaud, alors j'irai chercher sa viande plus tard. Ah non, hein ? Ah non, 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 dit sa femme. Tout de suite, allez, paresseux, lève-toi. Et la femme crie tant et tant que l'homme repart chercher la viande de l'éléphant. C'est alors que le chat vient se frotter aux jambes de la femme en ronronnant. Miaou, miaou. Oh toi, oh tu es forte, oh tu es très forte. J'ai très envie de devenir ton amie. Et comme ça, je pourrais tout te dire. Est-ce que tu veux bien être mon amie ? Et la femme de répondre. Oui, je veux bien. C'est depuis ce jour que la femme et le chat sont amis. Quand le chat se promène la nuit, il apprend toutes sortes de secrets. Et au matin, il vient se frotter aux jambes de la femme et lui murmure tous les secrets en ronronnant. Miaou ! C'est toi la plus forte. Sur le sofa bleu et noir, y'a du palombre dans. J'espère que vous avez passé un bon moment. Retrouvez cette émission ainsi que toutes les précédentes sur le site de Radio G à la rubrique de l'émission. La semaine prochaine, place à l'émission J'entends des voix. Quant à nous, je vous donne rendez-vous le jeudi 5 mai pour une nouvelle émission de Tout compte fait. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable journée à l'écoute de Radio G et je vous dis à très bientôt.